Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Eh bien, on passe à l'autre point de vue relié à l'abandon du projet Tech Frontier avec le commentaire de Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Steve.
Salut, comment ça va?
Ça va bien. Ben écoute, c'est sûr qu'on vient d'avoir un entretien avec quelqu'un qui, évidemment, défend l'aspect économique de l'exploitation des sables bitumineux, mais qui, très clairement, voit plutôt comme une nuisance les préoccupations environnementales et à son crédit, je dirais, mettons simplement, le cadre législatif que le gouvernement canadien n'arrive pas à clarifier puis à mettre de l'avant, à ce que les bottines suivent les babines.
Ben c'est drôle parce que d'une certaine façon le PDG là de la compagnie Tech a lui-même avoir été malgré lui donc au centre d'une de cette espèce de devoir de clarification parce que ce qui est pris ce qu'on doit considérer dans tout ça c'est que d'une certaine façon l'abandon j'avais partagé un texte du Toronto Star la semaine dernière où justement on parlait des dissensions qu'il y avait dans le caucus de Justin Trudeau par rapport à ce projet-là, mais il y avait aussi donc à la toute fin l'avis de certains spécialistes qui disaient ouais mais il y a quand même des grosses chances que ça se passe pas tout ça parce que premièrement le prix du baril de pétrole est trop bas, deuxièmement il faut quand même le voir là il y a des sources de pétrole encore abondantes pour bien au-delà de l'horizon de ce projet-là et surtout c'est que ces grands projets-là ben la plupart des grands investisseurs des grands fonds se retirent de ça. J'ai été étonné. En fait, j'ai beaucoup appris en lisant un texte dans le Bloomberg ce matin, donc un texte qui est signé par Kevin Orland puis Robert Tuttle. Et ces gens-là donc expliquent que peut-être que le fait qu'on ait mis le clou dans le cercueil de ce grand projet-là, ben ça sonne le glas de tous les autres grands projets de ce type-là. Mm-hmm. Parce qu'en même temps, Tech Frontier, ça va pas de l'avant, mais le PDG de la compagnie Tech a aussi annoncé qu'il se retirait du dernier grand projet, celui qui avait été lancé en 2018, le dernier grand projet de ce genre-là, ben Tech était aussi partie prenante là-dedans. Mm-hmm. Ils vont aussi se retirer de ça. Donc, et en quelque part, là, il y a peut-être une espèce de... On va peut-être forcer la main, finalement, à cette industrie-là à se reconfigurer. Et tout à coup, ce qu'on comprend aussi, c'est que même si l'industrie, même si les plus grands défenseurs de l'industrie pétrolière au Canada disent « Oui, le cadre réglementaire est trop difficile et tout ça », en fait, on ne peut plus se passer des considérations environnementale, ça ne se fait plus. Et même exact. L'industrie, elle le reconnaît là, et intrinsèquement le reconnaît dans ce projet-là.
Mais j'étais content d'entendre le premier ministre Trudeau hier, je crois, qu'il disait à Andrew Scheer qu'il politisait le débat sur l'environnement. Puis c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'à toi, Steve, mais il y a à peu près un an et demi, j'avais essayé de rassembler tous les chefs des partis à la Chambre des communes pour convenir que la prochaine campagne électorale serait sur comment on allait atteindre nos cibles de limitation de gaz à effet de serre plutôt que si... Parce qu'on est toujours dans le si. On peut pas dire, comme M. Scheer, qu'il fallait développer Tech Frontier et imaginer qu'on va atteindre nos cibles avec un projet pareil. Et pourtant, c'est dans une tendance mondiale. As-tu trouvé une source lumineuse d'espoir dans la nomination de Mark Carney pour surveiller justement ces investissements-là dans ces grands projets-là?
Ben c'est là l'espèce de dichotomie là à laquelle on en est arrivé. Puis je pense que là on a les deux pieds dedans. Puis le Canada se trouve là aux premières loges de ça. C'est que les considérations environnementales là, puis l'espèce de devoir moral et de devoir si on veut là, même c'est plus que ça. C'est une urgence. On doit y voir. Puis ça va se superposer aux intérêts financiers. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Cependant, on doit quand même rappeler une chose. Quand Justin Trudeau a été élu en 2015, rappelons-nous qu'un de ses premiers gestes, là, il était à quelques jours, les sondages, donc on voyait bien qu'elle a été élue, ben, il avait dépêché rapidement son bras droit Dan Gagné, pour aller voir les gens de l'industrie pétrolière, puis dire, ben, voici comment il faudra faire discrètement, là, t'sais, voici comment il faudra faire pour faire le lobby par rapport à... Hey, moi, j'avais sursauté, donc c'est sûr, Dan Gagné s'était retiré de la campagne ensuite, mais t'sais, on était encore dans cette dynamique-là, et probablement que l'abandon de Tech Frontier dans ce contexte-là, ça va permettre justement à Justin Trudeau de peut-être saisir l'occasion pour justement amorcer ce nécessaire virage-là dans la façon dont on envisage les projets pétroliers au Canada. Et s'il ne le fait pas là, ben il ne le fera jamais.
Exact.
Et là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on dit que les prochaines campagnes électorales fédérales devront non seulement se jouer en fonction des cibles qu'on doit atteindre, mais surtout, comment on va faire pour dire, pour concilier cette espèce de dysfonction de la Fédération canadienne entre les intérêts de l'Alberta, la Saskatchewan et ce que... Parce que là, on l'a vu aujourd'hui, là, Jason Kenney est au front depuis ce matin, là, puis lui, il est en furie, puis on recommence à parler d'unité nationale sur fonds de développement pétrolier. Ben ça, c'est la grosse dysfonction qui avait été annoncée en 2013-2014 par le Foreign Policy quand il avait dit Canada, c'est l'espèce de gentil voisin du Nord, ben, il est devenu un rogue petro-state. C'est pas rien, ça.
Absolument.
Mais on est là-dedans, puis il disait, ben, l'élixir du dysfonctionnement politique au Canada, c'est le pétrole. On le disait en 2013-2014 dans un texte du prestigieux Foreign Policy, et c'est toujours plus vrai aujourd'hui. Puis quand on voit la réaction de Jason Kenney, là, ben, on comprend que même si ce projet-là a été abandonné, là, il y a un autre projet il y a un autre problème sur les bras de Justin Trudeau. Ça va être celui de la question de l'unité nationale.
Oui, oui, oui. De l'Alberta, là, qui en a plein son casse. Mais honnêtement, moi, je pense que ça, ici, on est vraiment dans une rhétorique politique dans la mesure où l'Alberta serait pas plus avancée. S'ils sont vraiment fâchés puis qu'ils décident de se séparer, ben, ils vont quand même avoir un problème pour envoyer leur pipeline quelque part, pour envoyer le produit de leur richesse naturelle quelque part. Mais je trouve ça très triste parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Puis je pense que quand on parle, par exemple, de réchauffement climatique. Beaucoup de militants, beaucoup de spécialistes nous disent non, on ne peut plus parler de réchauffement climatique, il faut parler de crise climatique. Ben, de la même manière, moi, je trouve que quand on parle du pétrole canadien, on fait fausse route parce qu'il faut parler du pétrole issu des sables bitumineux. Pour les gens à la maison, ça peut sembler une subtilité, mais tu es d'accord avec moi, Steve, que c'est une énorme différence. Il y a une grosse différence entre entre un puits de pétrole qu'on peut voir en Saskatchewan avec un marteau, là, comme on a vu au Texas dans toutes les images. Il y a une grosse différence entre ce pétrole-là, dont le gros de la pollution se fait dans le raffinage puis dans l'utilisation par les véhicules et le chauffage et tout ça. Il y a une énorme différence entre ce pétrole-là et le pétrole issu des sables bitumineux. C'est pas du tout le même bilan environnemental, quoi qu'en disent les défenseurs actuels des sables bitumineux.
Oui, je sais, mais de façon plus large, il faut se sortir de l'économie du pétrole. Il faut envisager notre développement en dehors de ce cadre-là, puis être capable de regarder maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens, pour rendre, par exemple, l'alternative, pour proposer une alternative aux gens, par rapport à cette économie-là, tu sais, en anglais, là, aux États-Unis, on parle de petroleum driver, là, tu sais, parce que moi, j'étais encore très étonné. J'étais à Philadelphie la semaine passée, puis tu te promènes là-bas, puis tu regardes, je veux dire, tu trouves presque pas de bornes de rechange.
Mais non.
On trouve pas ça. C'est vraiment une économie qui est drivée, là, mur à mur par le pétrole. Mm-hmm. Et là, on se dit, mais nous, on a fait une petite avancée, puis au Québec, puis même de plus en plus au Canada, faut le dire, on voit, là, tu sais, tu peux pas t'arrêter maintenant sur le bord d'une autoroute au Québec sans voir que, où avant on voyait une borne de rechange, ben là, maintenant, on en voit 4, 5, 10. Puis on devrait tellement être fiers de ça, puis s'il y a quelque chose que le Québec doit exporter le plus,
c'est son électricité.
C'est son électricité, puis c'est la réussite qu'on a par les incitatifs aussi qu'il y a à acheter un véhicule électrique.
Bien sûr.
Mais de la même façon, un jour, va falloir pénaliser l'achat d'un véhicule à essence.
Mm-hmm.
Puis moi, je chauffe, tu sais, on a une camionnette, là, nous, là, mais j'ai rien contre ça. Puis si t'as vraiment besoin d'en avoir une, ben écoute, il faudra, on n'aura pas le choix, puis la camionnette électrique et tout ça, on n'a pas le choix, faut arriver vers ça, on peut pas...
Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il faut aussi essayer de polariser le débat. Tu sais, par exemple, quand on parle de voitures électriques, ben c'est sûr que c'est une discussion un peu plus urbaine. Je veux dire, si tu t'en vas sur une route de Garnett à Bay James, tu vas chercher longtemps ta borne. Tu sais, la fille qui faisait Gemidro l'a bien illustré à quel point il fallait qu'elle planifie ses déplacements. Mais profondément, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au niveau environnemental au Canada, on devrait peut-être commencer à parler. On a beaucoup parlé, M. Legault a beaucoup parlé qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un nouveau pipeline qui traverserait le Québec. Dieu merci. Mais on pourrait commencer à parler d'acceptabilité sociale, de changement de paradigme. On pourrait parler d'acceptabilité sociale pour l'Alberta, de faire migrer son économie vers autre chose, avec le soutien du Canada. Je veux dire, de l'Alberta, on se met à leur place. Nous, on est bien fiers, puis on a juste titre d'avoir nationalisé l'électricité. Puis bon, il y a des gros enjeux qu'Hydro-Québec, on va en parler tout à l'heure. Mais il n'y en a pas moins que c'est une richesse québécoise. Mais on est chanceux, on a une richesse qui est venue d'un pacte, entre autres, avec les Premières Nations. Puis on a bien exploité ça, puis on l'a nationalisé. Mais au niveau de l'Alberta, on va dire, c'est pas drôle d'être un Albertain aujourd'hui. Ils font du bœuf, puis du pétrole, puis dans les deux cas, ça pollue, paraît-il. Je veux dire, il va falloir tendre la main à l'Alberta pour les aider à migrer vers autre chose au niveau économique. Ces travailleurs-là ont besoin de travailler puis de mettre du pain sur la table.
Est-il besoin de rappeler que le Québec a développé seul son hydroélectricité, sa transformation et tous ces grands chantiers-là? Moi, ça me rappelle à quel point c'est méprisant ensuite quand on se fait envoyer paître justement par certains des politiciens de l'Ouest canadien qui nous parlent de péréquation. À un moment donné, je me dis oui, on veut bien aider, mais il faudra que il y ait aussi une certaine reconnaissance là de ce qu'on appelle le fiscal imbalance. On a appelé ça longtemps comme ça, mais en même temps aussi, il faudra que ces gens-là acceptent un jour que s'il y a eu une transition qui a été faite ici, ben elle a été faite à grands efforts et par la nation québécoise et aussi son partenariat avec les Premières Nations. C'est tellement important de le souligner ça.
Absolument.
Moi, de ce côté-là, j'ai aucun problème avec ça. Pour le bien commun de tout le monde, il faudra aider l'Alberta, en tout cas ce secteur-là de l'économie, il faudra encourager, il faudra tout le monde mettre l'épaule à la roue pour engager une transition vers autre chose.
Absolument, il faut dialoguer parce qu'actuellement, c'est...
Il y en a, en plus, il y a des possibilités là-bas. Les gens le disent, puis c'est ça qui est le plus drôle, c'est que là, on va planter le micro sous le nez, parce que ça a de la bonne nouvelle, ça va faire du clic. On va planter le micro sous le nez de Jason Kenney, mais on n'ira pas voir des gens, par exemple, à l'Université d'Edmonton puis Calgary. Il y a des gens sur des campus qui travaillent déjà à des projets qui pourraient remplacer ces grands projets pétroliers-là. Il faut aussi en parler à ces gens-là.
C'est ça, il faut arrêter de toujours donner la parole aux gens de l'industrie plutôt que à des citoyens albertains qui, en passant, financent beaucoup l'exploitation des sables bitumineux parce que, si je me souviens bien, ils ont très peu de redevances parce que le baril est trop bas. Donc, les Albertains reçoivent bien peu de redevances au niveau du pétrole et, en plus, financent beaucoup le gaz naturel qui est utilisé pour faire la vapeur. Hey, Steve, faut qu'on se laisse. Un énorme merci. Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. À bientôt. Vous écoutez Politiquement Incorrect.